brossage qui est mal fait avec pas le bon type de brosse à dents. Tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il peut y avoir certaines récidives, mais la greffe de gencive qui est faite va toujours rester là puis va toujours renforcer la gencive.
OK. Fait que c'est pas nécessairement une question génétique. C'est plus ça ma question. Là. J'étais pas...
Ah, au niveau de... Ouais, au niveau... Ben, il y a un facteur génétique, ça,
aussi.
C'est sûr.
Okay.
On le voit, là, si on le voit avec des patients adultes qui ont besoin de greffe de gencive, puis souvent leurs enfants finissent par en avoir besoin aussi.
Okay.
Donc, on le voit. Après ça, il y a plein d'autres facteurs là, qui peuvent causer ça. Là, la nécessité d'avoir besoin d'une greffe de gencive.
Disons
le dépassement de gencive.
Petite dernière question en ce qui me concerne. Est-ce que, puis ça, en fait, ça vient d'un auditeur, Jérôme nous demande, est-ce que les brosses à dents électriques sont plus efficaces?
Ça va dépendre des gens. Une brosse à dents manuelle parfaitement bien utilisée peut être très, très efficace. Chez des gens qui ont un petit peu plus de difficultés à bien contrôler la plaque dentaire dans leur bouche, malgré tout l'enseignement qu'on leur fait sur comment bien utiliser leur brosse à dents manuelle, dans ces cas-là, la brosse à dents électrique peut être plus efficace. Donc, on est, nous, quand même, tu sais, des... On va recommander quand même assez régulièrement, des brosses à dents électriques quand on voit que l'hygiène n'est pas optimale avec une brosse à dents manuelle.
Est-ce que vous privilégiez une marque en particulier? Parce que, tu sais, des brosses à dents électriques, il y en a à 6$ Colgate, là.
Ouais. C'est sûr que la brosse à dents, tu sais, je fais pas de publicité du tout, là, mais de type comme la marque Philips Sonicare, c'est des brosses à dents qui vont avoir des vibrations qui sont quand même très efficaces.
Okay.
Versus d'autres marques, ça va être plus une rotation de la tête. Je pense qu'elles peuvent toutes être efficaces, mais faut savoir bien les utiliser. Puis de là, l'importance, entre autres, de l'hygiéniste dentaire qui va vous montrer comment bien l'utiliser puis qui va vous conseiller effectivement sur laquelle qui est le mieux adapté à votre situation.
Ben, je dirais que même à ma clinique, c'est cette brosse à dents-là qui recommande.
Qui recommande aussi, oui.
Ça semble être un mot qui se passe, là.
Oui, ben tu sais, très efficace là. C'est sûr qu'on voit des beaux résultats aussi avec. Oui, effectivement, là, il y a beaucoup de dentistes qui ont tendance à recommander ce genre de brosse à dents-là.
Eh bien, monsieur Bourdon, un gros merci d'avoir pris. Je m'excuse, je vous avais dit un 20-25 minutes, finalement, on a fait un peu plus. C'est parce que vous êtes intéressant puis vous travaillez dans un domaine intéressant. Un gros merci pour les minutes que vous nous avez données ce soir. Très apprécié.
Ben, écoutez, ça m'a fait un grand plaisir, puis ça a pu démystifier quelques mythes, là. Donc, je suis content.
Ben oui, si on appelle au centre dentaire quartier, est-ce qu'on peut demander à faire affaire avec vous directement ou bien ils vont nous dispatcher au dentiste qui est dispo? Comment ça fonctionne?
Non, on peut le demander, définitivement. Là, on peut demander de faire affaire avec moi ou avec un de mes collègues. On est quatre dentistes, nous, le centre dentaire quartier, qui était anciennement le centre dentaire Girard et Martineau là, depuis longtemps. C'est pour ça, là, tout à l'heure, quand vous parliez du site web Girard et Martineau .com. Donc, oui, on peut faire affaire avec un dentiste en particulier ou s'il n'y a pas de préférence, ça va aller avec les disponibilités.
Bon, ben excellent. Encore une fois, un gros merci, M. Bourdon.
Merci pour votre temps.
Ça m'a fait un grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de soirée.
Vous également.
Merci.
Bye-bye. Bye-bye. C'était Maxime Bourdon, qui est dentiste au centre dentaire quartier. Très intéressant,
et
vraiment.
Et qui répond aux questions sans jugement.
Pour vrai, la job d'hygiéniste dentaire, je trouve ça a l'air trippant. Pour vrai, là.
Mais si t'es moindrement, t'es un gars minutieux, là,
ouais.
J'ai envie, là, fait que le détartrage. Puis en plus, c'est tellement une étape que je trouve le fun.
Le bout de gratter, là.
Ouais,
j'aimerais tellement ça, faire ça, là.
Ah ouais. Moi, c'est ça, puis genre prendre des radiographies de bouche, j'aime ça.
Ah, ouais.
Ouais, moi, j'aime ça, le petit coton, la petite caméra qui met le clou.
Ouais, avec serrer là-dedans.
Ouais.
Puis...
Ouais. Moi, déjà, je serre tellement des dents que tu me dis croque dans quelque chose. Je suis comme, OK.
Non, ouais, tu te gâtes.
On m'a dit que j'avais quand j'ai changé, parce qu'avant, écoute, je descendais, je faisais des allers-retours pour aller voir ma dentiste dans Charlevoix. Là, tu sais, à un moment donné, c'est du zèle. Faire 3 heures de route pour genre 25 minutes de nettoyage.
Mm-hmm.
Et quand j'ai changé de clinique, on m'a dit que j'avais vraiment la bouche musclée. Et moi, c'est quelque chose. Je dors avec une plaque, puis je suis en train de passer au travers. Là.
C'est fou, ça.
Ouais, je serre des dents, puis je le sens ici, là, à la base de ma mâchoire, que c'est tic, là, il y a de quoi.
T'as-tu eu des maux de tête associés à ça? Veux pas, tu sais, avant qu'ils te la prescrivent, c'est tout ça qui t'a amené à consulter?
Moi, ça paraît pas, mais j'ai un petit plombage en avant dans mes dents en bas. Parce qu'à un moment donné, j'ai croqué dans une pomme ici à la station, puis j'ai perdu un bout. C'est vrai.
Mais ça se décompose, à bonne fin.
Parce que je serre trop des dents, je les fragilise.
Okay.
Puis on le voit, là, mes bouts de dents sont arrondis. parce que je serre trop. Fait que j'ai plus des canines. Moi, j'ai
comme... T'as rendu ou t'es limé?
Non, je les ai pas limés.
Non, pour revenir à tantôt.
Non, je veux pas être une constipatrice. Je suis capable de faire ça sans les dents.
Ouais, OK, bon, ouais. Championne. Bon, mais good.
Le Spacecast.
I like that. Radio X.
Le Spacecast, présenté par l'ASTTQ et la tire de tracteur modifiée de Saint-Agapé, qui aura lieu les 4 et 5 juillet. Billets directement à l'entrée, gratuit pour les 12 ans et moins. Détails sur Facebook, tire de tracteur Saint-Agapé. Morée. Live.
Oh!
Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par le maître constructeur Saint-Jacques. Profitez du meilleur prix pour votre maison préfabriquée en réservant maintenant votre prix pour 2026. Planifiez votre visite de nos 9 maisons modèles. maîtreconstructeursaintjacques.com.
Hey Doom, sais-tu où je pourrais trouver une belle clôture noire ornementale pour fitter avec mon patio?
C'est sûr que tu trouves ça chez Clôture Terrien.
OK, mais Doom, j'ai aussi besoin d'une clôture autour de ma piscine avant le 15 septembre avec les nouvelles règles gouvernementales.
Ça aussi chez Clôture Terrien. Pour les meilleurs prix et la meilleure équipe, Séché Clôture Terrien. On a tous les types de clôture. Quand on pense clôture, on pense Clôture Terrien. Venez nous voir au 5200 rue Armand-Viau à Québec, clôtureterrien.com, 418-473-2783.
Tu t'es oublié? Entre les horaires, la pression, les compromis, reviens à l'essentiel. Ton corps. Chez Gentleman Paradise, chaque touche est soigne, chaque moment réveille. Quand le plaisir est sincère, il n'y a rien à prouver. Tous les jours de 9h à 23h, Gentleman Paradise, avenue Branly.
Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Assurance habitation, automobile, entreprise, vie, obtenez les meilleurs prix. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com.
L'Académie des arts sucrés, ce sont des cours de pâtisserie à votre image. Seul ou en groupe, offrez-vous des cours à domicile adaptés à vos goûts, votre niveau et vos objectifs. On apporte tous les ingrédients et on vous offre même un livre de recettes personnalisé. Académiedesartssucrés.com.
La météo est incertaine? Chez Gentleman Paradise, c'est toujours chaud et très, très humide. Gentleman Paradise, c'est le salon de massage érotique à Québec. 7 jours sur 7, de 9h à 23h, avec ou sans rendez-vous, viens voir les demoiselles. Avenue Branly.
Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X.
Choix.
Choix.
Hell yeah!
98. 1.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
La Sexploratrice, présentée par Thibault Électrique. Raccordement et branchement de piscine, installation de bornes de recharge et autres travaux électriques, Thibault Électrique est là. Sur la rive nord et la rive sud, thibaultelectrique.ca.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en cette première de cette saison.
Yes.
Bonsoir Louis.
Bonsoir Mel. En oui. Forme?
En pleine forme. C'est pas vrai pour tout, mais c'est pas...
Ben écoute, on est top shape.
Très sérieusement, oui, mais écoute, hein, ça court les virus. Puis d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec notre invité.
On a le gars pour.
Hein? Mais on a le gars pour, certainement. Mais voilà, je pense que ça touche beaucoup de gens présentement. Vous pouvez nous texter d'ailleurs ou nous appeler tout au long de l'émission. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions. 418-670-9098. Et je serais curieuse, mesdames et messieurs, d'où est-ce que vous nous écoutez?
Oh!
Et êtes-vous malade en ce moment?
Et êtes-vous malade?
On dirait que tout le monde est malade ici, autour, dans nos familles, à la station. Ça court.
Tout le monde. Puis on dirait que ça arrête pas. Moi, en tout cas, là, j'ai été malade une semaine ou deux. Ben une semaine pendant le temps des fêtes. Là, ça arrêtait deux jours, ça repartit.
Ouais.
Ça arrête un peu, ça repart. À un moment donné, elle va s'arrêter, la maudite grippe,
hey.
Ou la maudite rhume, ou le ben... maudit je sais pas quoi qui me bouche le nez?
Bon, c'est ça, on est tannés, là. Donc voilà, on sera en live sur TikTok dès la deuxième portion de l'émission. Pour le moment, mesdames et messieurs, j'aimerais vous annoncer qu'on reçoit à nouveau notre cher collaborateur Marc Hamilton, qui est microbiologiste et président de l'Association des microbiologistes du Québec, mais également président du groupe Eurofin
Environex.
Hey, ça revient.
Ça arrête pas de bien aller.
Ben oui.
Mais oui, je suis contente parce qu'avec toi, on peut parler de tout. Puis je le dis souvent, la sexploratrice, oui, on parle de sexualité, mais pas que. La sexualité, finalement, pour avoir une santé sexuelle, une santé, un bien-être à point, ben, il faut être bien dans notre corps, dans nos relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, au travail. Donc, on touche à tout ce qui touche l'humain, finalement. Et ce soir, ben, on va aller du côté de la profession.
Microbiologie.
Oui, hein? Parce que moi, je me demande, on parle bon, parfois même de microbiote, ces choses-là, mais ça n'a pas rapport, là, la microbiologie. C'est quoi ça exactement?
Ben, c'est la science des micro-organismes. Donc, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, ce qui est infiniment petit. Il y a la biologie et la microbiologie. La biologie, c'est ce qu'on voit. C'est le vivant tel qu'on peut le voir. Et la microbiologie, c'est le vivant tel qu'on ne le voit pas à l'œil nu. On parle à ce moment-là de bactéries, de moisissures, de champignons. Mais le microbiote est un bel exemple aussi, qui est un amalgame de bactéries qui fait qu'une bonne santé intestinale. Donc, nous, c'est ça, notre profession. C'est de trouver des moyens de dépister, des moyens d'interpréter, des moyens de trouver même des médicaments aussi. Les microbiologistes travaillent à la fabrication, à le développement des antibiotiques, des vaccins durant la COVID. On a travaillé beaucoup là-dessus. Donc, tout ce qui touche, et encore de plus en plus, on se rend compte que plus le temps avance avec les changements climatiques, plus on se rend compte que les micro-organismes sont vraiment autour de nous et ils nous donnent toutes sortes de nouvelles maladies qu'on n'avait pas avant. Il faut penser que depuis 1940, il y a quand même plus eu de 300 nouvelles maladies qui est sorti, que ce soit des bactéries qui nous ont causé des problématiques, des nouveaux types de pneumonie. Je pense juste au VIH, qui est une maladie qui a été créée en 1983, que ce soit l'Ebola, le Zika, la COVID et la SRAS. C'est toutes des choses qui n'existaient pas avant 1940. Donc, ça n'a pas fini d'évoluer, le monde de bactériens. Et c'est une science qui est sans cesse en renouvellement pour s'adapter aux nouvelles, je dirais, aux nouveaux micro-organismes qui se pointent à nous. Il faut penser que les bactéries ont une facilité de s'adapter dans l'environnement où est-ce qu'ils sont. Demain matin, il y aurait un cataclysme qui enlèverait tous les êtres humains de la planète et il resterait que des bactéries qui survivraient malgré peu importe les tempêtes que nous aurions ou les radioactivités, ces choses-là. Les bactéries finissent toujours par se muter et passer au travers d'un événement difficile. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est ce qu'on appelle les résistances aux antibiotiques. Il y a de plus en plus de bactéries ou de maladies qui se guérissaient bien, très, très, très bien avec des antibiotiques tels, tout le monde connaît ça, la pénicilline. Donc, tout le monde en a déjà pris au moins une fois dans leur vie pour traiter juste une amygdalite ou une otite.
Oui.
Bien, aujourd'hui, la pénicilline, c'est rendu une des antibiotiques qui est le moins en moins prescrit.
On parce a qu'on développé a une résistance.
Tellement pris, des fois pas toujours de la bonne manière, mais tellement été prescrit longtemps et que les bactéries ont fini par s'habituer à sa présence et ne fait plus effet. Donc, c'est des exemples comme ça qu'il faut constamment travailler. Puis quand on parle de une maladie ITSS, une des bactéries qui m'énerve le plus, c'est la gonorrhée.
Je pensais que tu allais dire l'herpès, parce que l'herpès, c'est fatigant.
L'herpès, c'est un virus.
C'est vrai, c'est vrai.
L'herpès, c'est pas les traitements, mais le virus, les traitements, l'herpès ne se guérit pas, mais l'herpès se traite. Tandis qu'une fameuse gonorrhée, là, les fameuses chaudes pisses qu'on appelle, là, qu'on appelait dans le
temps. Qui est de retour, il y a une recrudescence de cas.
Très forte demande, si on veut. Du moins, beaucoup de gens sont positifs parce que les gens se font trop confiance entre partenaires et boum, on se rend compte qu'on a une gonorrhée. Et la gonorrhée, avec les années, parce que c'est une des premières ITSS qui s'est traitée par des antibiotiques, elle a été largement utilisée et il y a beaucoup de nouvelles souches de gonorrhée qui sont multirésistantes. Et c'est ça le problème de cette fameuse ITSS-là, c'est qu'on se rend compte qu'elle est de plus en plus vulnérable. Donc les gens, on sait que c'est tabou de prendre une ITSS, donc les gens prennent un antibiotique, se pensent plus porteurs de la maladie et la fameuse gonorrhée continue à faire son effet parce que l'antibiotique prescrit n'est pas la bonne, parce que la gonorrhée est résistante. Fait que ça fait des gens qui sont contagieux beaucoup plus longtemps. Et bon, les gens retournent voir leur médecin et disent, écoutez, je comprends pas, j'ai encore des symptômes. Là, t'sais.
Puis, parce que c'est la seule façon de savoir s'ils l'ont encore, c'est par des symptômes ou ils pourraient repasser des tests?
Ils pourraient repasser des tests, mais bien souvent, les gens vont rester avec des symptômes. T'sais, les gens vont dire, c'est normal encore, que ça fait mal quand j'urine, que j'ai des sécrétions au niveau de l'urètre, au niveau vaginal. Puis là, ben, les gens continuent à se poser des questions parce qu'ils disent, habituellement, après 3-4 jours, j'ai plus rien, voilà, là, mais ils continuent d'en avoir. Donc, c'est des cas de figure comme ça qui fait que la science devient de plus en plus complexe et notre profession prend de plus en plus d'importance. Là, on parle du point de vue médical, mais si on parle du point de vue environnemental, point de vue alimentaire, il y a de plus en plus de bactéries qui sont dans notre environnement. Un exemple que je peux vous donner, qu'on avait beaucoup moins avant, au niveau alimentaire, avant ça, ben, au Québec, on n'importait pas beaucoup les aliments. T'sais, on mangeait les aliments du temps. C'est l'été, on mange des fruits. L'hiver, on va manger des patates, des carottes qu'on a gardées dans le caniveau pour les garder au frais. Puis on n'importait pas de fruits et légumes de d'autres pays. À cette heure, on veut des fraises, on va en avoir au mois de février, on veut des kiwis. Et l'importation de beaucoup massive de ces fruits et légumes-là de d'autres pays, qui vient de pays où est-ce que la salubrité alimentaire n'est pas la même que nous.
Ouais.
Donc, on emmène des nouvelles bactéries.
Et des parasites
aussi. Peut emmener, et là, je fais l'introduction, la gastro-entérite. Donc,
parce que là, présentement, les virus hivernaux, ça circule abondamment. Il y a plein de gens autour de nous. Et là, présentement, on dirait que la gastro-entérite est présente en très, 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 très grand nombre. En fait, je le pense pas. C'est confirmé, d'ailleurs, dans les médias depuis aujourd'hui, si je ne me trompe. Comment on fait pour s'en sortir? Parce que là, quand ça entre dans une maison, cette affaire-là, d'où ça vient? Comment ça qu'il y en a plus qu'avant? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus?
La gastro-entérite, c'est une gastro-entérite qui est virale. Donc, on parle que c'est un virus qu'on appelle le norovirus. Le norovirus est un virus du tube digestif, donc un virus intestinal. Donc, on appelle des fois une grippe intestinale.
Oui.
Donc, à ce moment-là, c'est un virus qui est excessivement contagieux. Donc, on l'attrape comment? Premièrement, il faut que les gens soient porteurs de la maladie. Quelqu'un qui est porteur de la maladie, c'est pas compliqué. Il vomit, il y a la diarrhée, ça dure 2-3 jours.
Ça sort des deux bouts.
Tout ce qui sort des deux bouts est excessivement contagieux. Donc, quelqu'un qui est porteur de la maladie, ben parce qu'il vomit, parce qu'il va aux toilettes, il y en a sous ses mains.
Il y en a partout dans
la toilette. La toilette en a. Donc, tous les gens qui voisinent les gens qui sont porteurs de la maladie, ben ça n'en prend pas 50 souches de ces bactéries, de ces virus-là pour être affectés. Donc, les gens, première affaire qu'il fait, va serrer la main de cette personne-là, va toucher, exemple, une matière, une surface contaminée par une personne qui était porteur. Donc, les gens vont faire quoi? Donc, va se mettre les mains à la bouche, va finir par toucher une voie respiratoire et le virus rentre. Et à ce moment-là, infecte notre tube digestif et la gastro va arriver de 24 à 48 heures après avoir ingéré ou avoir été en contact avec ce fameux virus-là. Et là, les symptômes fulgurants arrivent et bien souvent, beaucoup de gens cette année ont attrapé la gastro, même pour la première fois de leur vie. Il y en a qui n'ont jamais attrapé ça, une gastro-entérite virale aussi fulgurante. Donc, ce sont 2 jours de temps. Écoute, ils ne sont pas capables de manger, on vomit, on a la diarrhée. Et c'est là que le danger de cette maladie, ce virus-là, qui dure heureusement 2 à 4 jours...
On peut se déshydrater.
C'est ça le danger. Donc, les gens, c'est sûr que c'est du repos. Hein. Quelqu'un qui a une gastro, on ne sait pas le temps de sortir pour aller contaminer les autres. Là. Mais,
c'est sûr que tu as une gastro, tu travailles ici avec nous.
Chez vous.
Exactement. Donc, on c'est boire beaucoup de liquide. Mais pas seulement que juste de l'eau, parce qu'on va se déshydrater davantage. Donc, ça prend... Parce qu'on va perdre beaucoup de sodium, beaucoup de potassium.
Le fameux Gatorade?
Gatorade, peut-être pas 100% du Gatorade tout le temps, parce que là, on a comme trop de sodium, trop de potassium. Mais tu sais, d'avoir un Gatorade sur 2, c'est intéressant. Tu sais, un Gatorade de l'eau, et non pas 100% ça, parce que là, c'est comme trop. On va en accumuler plus qu'on va en sortir, mais c'est bon d'avoir quand même des électrolytes suffisants. Et ce qui arrive, c'est que bien souvent, d'où est-ce que ça sort, ce virus-là? C'est un virus qui est exclusivement humain, de sorte que c'est pas un animal qui l'a emmené, c'est un être humain, c'est un virus 100% humain. Et bien souvent, pourquoi que c'est l'hiver, le norovirus, souvent?
Surtout, oui.
Surtout. Ça vient bien souvent des souches qui sont bien souvent dans les fruits qu'on va commander de d'autres pays? Ou est-ce que le norovirus, parce qu'ils arrosent des champs, ou est-ce que les fruits? Bien souvent avec de l'eau qui a été utilisée par les êtres humains, qui bien souvent a servi d'eau, d'égout, des choses où est-ce qu'il y a eu des déchets humains. Puis dans ces pays-là, bien, c'est pas de l'eau potable ou de l'eau qui a été traitée nécessairement pour arroser les champs. Donc, il peut y avoir un norovirus humain qui s'est installé dans cette eau-là, qui en a arrosé ces fruits et légumes-là. Et bien souvent, les fruits, on les fait pas cuire. C'est pas comme manger un fruit qu'on fait cuire ou un légume qu'on fait cuire qui, lui, ben, à la cuisson, dès qu'on atteint 60 degrés, le virus ou toute forme de bactéries pathogènes va mourir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que durant l'hiver, on les attrape? Puis beaucoup, dans le temps des fêtes, on va manger beaucoup de ces fruits, hein, des fruits. On va faire des tartes. Ben, des tartes, c'est cuit, mais on va manger des, exemple, des mûres, on va manger des bleuets, on va manger des framboises, des fraises. Puis c'est pas made in Québec, hein. Ça vient de pays, là, X, Y, Z. Et il suffit juste qu'il y ait un de ces fruits-là qui est contaminé par un norovirus et c'est parti.
J'aurais jamais pu penser que ça pouvait venir de là.
Il y a les aliments les plus à risque pour les norovirus, c'est les fruits. Et un réservoir naturel de norovirus, c'est les huîtres. Donc, quelqu'un qui est un grand consommateur d'huîtres, il faut vraiment s'assurer que les huîtres n'ont pas été cultivées dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vivent autour d'une portion, d'exemple, de la mer ou quelque chose de genre, ce qui ont été cueillis les huîtres. Parce que les huîtres, eux, ils vont filtrer l'eau. Et s'il y a un norovirus humain dans l'eau qu'ils vivent...
Elle va le filtrer.
Elle va le filtrer, puis le norovirus va rester capté dans son estomac.
Oh.
Et le huître va rester porteur de la maladie longtemps, qui fait qu'une huître, on mange ça cru, on mange pas ça cuit, généralement. Et donc, on va absorber, parce que l'huître, on la mange au complet, on ne la décortique pas. Et on peut attraper un norovirus en mangeant des huîtres. Bien souvent, les huîtres sont souvent testées pour la présence de norovirus, comme les fruits. Et qu'est-ce qui fait que bien souvent, la fameuse norovirus ou les gastro-entérites s'attrapent à la garderie?
Oui.
Hein? On voit tout le temps.
C'était ma question. Pourtant, les enfants, si je ne me trompe, il y a un vaccin qu'on leur fait...
Pas pour le norovirus.
OK, c'est quoi le vaccin pour...
La grippe?
Son bébé, il y a comme le oro. Quelque chose, mais en lien avec.
Ça peut être la coqueluche, ça peut être.
Mais c'est pas en lien avec les intestins, justement. Il n'y en a pas un en lien avec la gastro.
Non.
Qui est optionnel.
Il n'y a rien contre la gastro.
Ah,
pas.
Ouais.
Ça ne vaccine pas. On peut attraper la gastro plusieurs fois dans notre vie. C'est un virus que notre système immunitaire. Combat bien, mais qui ne retient pas. Autrement dit, il va l'oublier qu'il l'a attrapé, puis tu peux attraper une gastro 3-4 semaines après et recontinuer.
OK. Cool.
Donc. Bien souvent, pourquoi ça commence dans les garderies? Bien, d'un, les enfants, la première affaire qu'ils font, lorsqu'il y en a un qui l'attrape, bien, ils partagent les jouets avec l'autre, ils sont toujours les mains dans la bouche. Tu sais, c'est le côté d'hygiène, les enfants, mais ils sont tous comme ça. Fait que ça se partage des bactéries, ça se partage des virus. Et pourquoi que les enfants, bien souvent, ça s'attrape là? Qu'est-ce qu'on met le plus souvent comme lunch aux enfants? Bien souvent, les enfants mangent mieux que nous autres. Bien souvent, les enfants, là, on dit, hey, mon enfant, il faut qu'on y mette un fruit, puis, tu sais, plusieurs portions.
Le guide alimentaire.
Et nos enfants, généralement, mangent mieux que nous à la garderie. Puis, il suffit juste qu'un enfant mange un fruit qui n'a pas été convenablement rincé, parce que un des. Puis, tu sais, les gens disent, Marc, faut pas paranoïer, faut pas toujours rincer les fruits. Bien, moi, durant l'hiver, oui, c'est important de les rincer parce que les fruits, on sait pas c'est qui les a manipulés avant, puis on sait pas d'où est-ce qu'ils viennent.
Puis, les rincer, parce que moi, mon ex, elle faisait pas que rincer les fruits, là. Elle avait les fruits, là. Elle avait sa brosse à fruits, puis elle sortait ça, puis là, ça frottait, puis ça frottait, puis ça frottait. Tu sais, moi, je pogne la pomme, là, mettons, ou bien le plat de framboise, je le passe à l'eau, puis je le sors un peu, puis c'est fait, là.
Ce qui me fait peur, c'est pas les fruits nécessairement à peau lisse, parce que les bactéries vont coller beaucoup moins dans une peau lisse. Et bien souvent, la
framboises.
Les framboises, les fraises, tous les fruits, où est-ce qu'il y a des interstices, c'est compliqué.
Hey, ça, on s'entend qu'on rince ça à l'eau rapide.
C'est correct. Juste rincer, là, au lave-légumes, là, sans mettre de frotter quoi que ce soit, on enlève plus de 90% de ce qu'on de virus ou de bactéries indésirables, ce qui est bien souvent suffisant pour éviter une contamination.
Okay.
Mais bien souvent, les gens le font pas. Gens vont le prendre direct, il y a à peine rincé, bon, bac, c'est parti là. Fait que là, le norovirus, présentement, ben, vu que c'est très contagieux, ben, puis on sort du temps des fêtes où est-ce que les gens ont probablement commencé une souche le temps des fêtes. Fait que là, les gens amènent ça chez eux, puis là, une autre partie. Puis là, ben, un tel l'attrape, là, perpétue la contamination d'un endroit à l'autre, qui fait qu'on est rendu un mois plus tard, puis on est encore dans le pic. Ça va finir par partir quand il va y avoir eu un certain nombre de populations qui l'ont attrapé. Ça fait toujours un temps dans l'année, donc on est dans un pic, mais ça va partir. C'est juste que c'est tannant parce que c'est le neurovirus est rarement mortel, très rarement mortel.
À moins que tu aies des conditions, tu sais, j'ai un ami qui est décédé d'un coma diabétique suite à une gastro, justement.
Oui, parce qu'il y avait des complications.
Exact. Mais en temps normal, quelqu'un qui est en santé passe au travers de la gastro, c'est plate, c'est un 2-3 jours.
2-3 jours, puis la gastro entérite est des principales causes d'absentéisme au travail au Québec.
Oui.
Encore plus que la grippe.
Ben c'est normal, là, tu veux pas sacrer la gastro dans ton milieu de travail.
Ben parce que t'es pas capable d'aller travailler.
Ouais, c'est sûr, ça molle, c'est pas pratique.
C'est une vraie gastro, puis là, des fois, il y a le conjoint aussi qui l'est. Là, vous avez pas dormi de la nuit parce que c'est un ou l'autre qui est malade.
Puis là, l'enfant qui l'attrape, et là, l'enfant, j'ai pas de garderie. La garderie, je peux pas l'envoyer à la garderie. Fait que la personne reste à la maison avec l'enfant. Fait que là, ça crée de l'absentéisme au travail. Fait que la gastro, vu que tout le monde peut attraper ça de tout âge, ben, c'est une des principales sources d'absentéisme en termes de maladies déclarées, par les employeurs. J'ai attrapé la gastro, je rentre pas. Hey, mon enfant l'a eu, je peux pas aller de porte à la garderie, je reste à la maison. L'enfant le donne aux parents.
C'est quelque chose qui fait peur aux employeurs. T'sais, des fois, là, mettons, je file pas, le boss va dire, mais là, ça me met dans le trouble, tu es sûr, tu peux pas rentrer, mais une gastro, tu dis ça à un boss, le boss,
il comprend. Reste chez vous.
Non, c'est évident, là. Puis. C'est des cas de figure comme ça qui fait que, heureusement, tu sais, ça doit être très contagieux. Ça dure 2 à 4 jours maximum. Tu sais, bien souvent, bien aigu 24 heures.
On est plus contagieux à partir de quand? Mettons, à partir du jour 1 qu'on est malade.
On a des symptômes. Surtout qu'on devient symptomatique, là. Du moins que tu commences, il y en a qui peuvent avoir de la fièvre, il y en a qui vont vomir. Du moment que tu commences à avoir, ça me grouille dans l'estomac, je me sens pas bien, on est contagieux.
Et la contagion s'arrête quand?
La journée que ça arrête de faire des diarrhées. Donc, on est contagieux, je dirais peut-être une journée avant, puis une journée après. Là. Fait que c'est entre 2 et 5 jours que tu es contagieux. Là. Ou est-ce que tout est liquide? Autrement dit, ton vomi, une toilette qui est souillée par quelqu'un qui a la gastro, idéalement la nettoyer ou dédier une toilette à cette personne-là, parce que tous les résidus de diarrhée, s'ils restent collés à la toilette et qu'on est en contact avec ça, on se contamine. T'sais. Fait que c'est important de garder une hygiène, nettoyer, éliminer le plus possible les endroits où est-ce qu'on a laissé nos liquides biologiques.
Exactement. Ben, je pense que ça fait le tour pour la gastro. On a déjà des questions qui sont rentrées sur le live en lien avec les ITSS, ce sera le sujet de deuxième partie d'émission. Absolument. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, le 418-670-9098, si vous avez des questions en lien avec des maladies transmises sexuellement, des traitements, des choses que vous avez peut-être vécues. On a des questions déjà qui sont entrées. Je mentionne qu'on est également en live sur TikTok. Donc, le TikTok de la sexploratrice. Vous voyez notre invité en live.
Puis, on n'est pas juste live sur TikTok, on est live en onde aussi.
Oui, on est live en onde à la radio. Il y a des gens qui demandent si c'est une reprise. Non, on est là. Interagissez avec nous. Vous pouvez même nous appeler. 88-770-9098. Et parlant de TikTok, parce que là, c'est le Marc Hamilton, qui est microbiologiste, qui est avec nous, qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais je tiens à préciser que notre cher collègue Louis, je veux le plugger parce que c'est une page qui est hyper intéressante. Louis, tu as maintenant ta propre page TikTok.
Ouais, ben avec deux de mes chummés, dans le fond, avec mes deux chummés, ça se résume pas mal à ça. On s'est parti un petit TikTok là, où on partage des petits résumés de nos aventures dans les montagnes, dans les autres pays. Ça s'appelle Mountain Bros, Mountain Brothers, là, mais là, j'ai changé le nom tantôt un peu, puis ça a tout fucké, puis là, je peux plus pendant 7 jours. Fait que là, c'est mountain.bros, puis si vous voulez aller voir ça, nous encourager un peu. Il y a du bon stock, vous allez rire.
Vraiment?
Il y a du cassage de gueule, puis des affaires qui n'ont pas trop d'allure.
Allez vous abonner. Pour notre cher Louis. Donc, restez à l'écoute, mesdames et messieurs, puisqu'au retour de la pause, on aborde toutes vos questions, mais également des faits et des statistiques en lien avec les ITSS et autres virus qui pourraient être transmis sexuellement. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.
La Sexploratrice, présentée par Thibault Électrique. Raccordement et branchement de piscine, installation de bornes de recharge et autres travaux électriques. Thibault Électrique est là. Sur la rive nord et la rive sud, thibaultelectrique.ca.
Le Space. Cast avec Jeff Rich Blais.
Salut.
Et Camille.
Oh ben oui, oh, excusez-moi.
Le Space Cast. Du lundi au jeudi, 19h.
Radio X.
Présenté par la STTQ et la tire de tracteur modifié de Saint-Agapé qui aura lieu les 4 et 5 juillet. Billets directement à l'entrée, gratuit pour les 12 ans et moins.
Détails sur Facebook, tire de tracteur Saint-Agapé.
Futura. Pour des portes et fenêtres de haute technologie, c'est Futura Manufacturier. Un service complet de la fabrication à l'installation de vos portes d'acier et fenêtres en PVC ou hybride jusqu'à l'estimation gratuite. Plusieurs offres de financement sont disponibles. Venez nous rencontrer. Nous sommes ouverts à la négociation selon vos projets et nous avons de la place pour installation en 2025. Les deux meilleurs endroits pour vous servir à Québec. La qualité au juste prix. Portes et fenêtres Futura.ca.
Nouveau logis, nouveau matelas. Matelas Dauphin facilite votre changement de matelas en vous offrant toute une vente. Économisez des centaines de dollars sur nos matelas de grande qualité, plus taxes payées. Matelas Alcove ultra confortable avec plateau coussiné, garantie 15 ans, format double, en spécial à 599 $, taxes payées. Livraison gratuite et rapide. La vente déménagement dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Assurance habitation, automobile, entreprise, vie, obtenez les meilleurs prix. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com.
La Sexploratrice, présentée par Thibault Électrique. Raccordement et branchement de piscine, installation de bornes de recharge et autres travaux électriques. Thibault Électrique est là. Sur la rive nord et la rive sud, thibaultelectrique.ca.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
Vous êtes de retour avec la Sexploratrice en cette première de cette nouvelle saison. C'est un plaisir d'avoir avec nous Marc Hamilton, microbiologiste, mais également président de l'Association des microbiologistes du Québec et de...
Eurofin Environex.
Je l'ai eu one shot tantôt, mais là...
Non, mais c'est bon.
TDA est embarqué. En compagnie de notre cher Louis également.
Yes!
Et voilà qu'on a déjà des questions sur le live. On a aussi quelqu'un au téléphone.
Oui! Écoutez, à ce temps-là, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais
ouais,
ça peut être bon.
On va y aller, on va aller voir. Ah oui. D'un coup, que c'est une question pertinente et intéressante. La Sexploratrice, bonsoir.
Oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
OK, c'est parce que je suis sommeillide. Moi, j'ai surpris dans la bouche que le docteur Milton, il va pas me dire ce que j'en pense. La première biopsie, il y avait une masse blanche sur le côté de la langue. Puis dans la masse blanche, avec la première biopsie, c'était un pesage négatif. Vous savez, c'était une protéine. Après ça, il y avait un congénome qui est un papillon humain, un VPH.
Oui, ça va bien.
Oui.
Bon, ouais, quand je vous dis que le VPH se transmet facilement, là...
Oui.
Ben, oui.
Le VPH, le virus de papillon humain, c'est sûr que c'est un virus qui attaque, du moins, autant les hommes que les femmes, et à tout âge. Donc, du moment qu'on a une relation sexuelle, protégée ou non, là, généralement, il faut qu'elle soit protégée, mais généralement, autant l'homme et la femme peuvent l'attraper. Et même au niveau buccal, on peut avoir un papillon humain au niveau de la gorge qui va s'installer, donc quelqu'un qui fait du sexe oral avec quelqu'un qui a des condylomes. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a des condylomes, même on peut avoir des condylomes au niveau de la bouche, qui peut causer à la longue des éruptions vraiment au niveau de la langue, du palais.
Ça peut même mener à un cancer.
Ça peut
hein?
amener un cancer de la bouche, un cancer de la gorge. Même pour l'homme en tant que tel, des condylomes. Donc, les gens qui ne savent pas c'est quoi, allez voir un peu sur Internet. Là, c'est comme des genres de petits choux-fleurs qui s'installent autour des endroits où est-ce que c'est comme le pénis ou le vagin, qui, en tant que tel, est excessivement contagieux. Donc, juste par simple frottement entre deux organes génitaux ou un sexe oral, on peut attraper le VPH qui, je dirais, dans 90% du temps et plus, va disparaître par lui-même. Donc, le corps humain va finir par s'en débarrasser. Et malheureusement, il y a une certaine partie qui vont développer des condylomes et ces condylomes-là pourraient, avec le temps, créer des tissus cancéreux, que ce soit au niveau du col utérus. On va le voir aussi même au niveau du cancer anal, au niveau de l'anus.
Je connais quelqu'un qui a le cancer de la gorge.
Cancer de la gorge qui va être causé par un VPH qui n'a pas été diagnostiqué en temps. Donc, c'est sûr que ça pourrait devenir un VPH, comme vous le dites.
Et là, comme cette personne a contracté le virus, je sais que présentement, OK, c'est exceptionnel, mais les personnes âgées de 21 à 45 ans pourraient se faire vacciner gratuitement contre plusieurs souches de VPH, les principales, finalement. Vous pouvez aller voir là, sur Bref Santé Québec, en tout cas sur le web. Là.
Pour que rien de ça, madame. En France, il y a le vaccin pour les femmes en bas de 20 ans. Mais vous ne m'avez pas parlé du pêchage négatif quand il devient positif. Vous savez quoi c'est, le pêchage négatif?
Non, pas tant. Pas tant.
Ah, ben là, moi, si je vous parle, là, je ne parle pas bien. Savez-vous pourquoi? Parce que mon ORL, depuis la première biopsie, là, c'est un des trois facteurs que je vous ai donné. Moi, je trouve ça rien parce que j'ai pas dit monsieur de ma langue.
Oui, non,
écoutez,
c'est ça.
On a beaucoup de difficultés à vous comprendre. Moi, ce que je vous inviterais à faire, ce serait peut-être de m'écrire via courriel l'ensemble de vos questions.
Écoutez, j'ai besoin d'un jour pour monsieur Mac Hamilton, puis on paye. On est capable de payer.
Non, ben.
Mais monsieur Mark Hamilton n'est pas.
Je ne fais pas de
privé, là. Par contre, écrivez-moi par courriel, je vais vous référer à des médecins, des cliniques privées avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'écrire au lasexploratrice@commercialradiox.com.
C'est parfait.
C'est bon?
Oui, c'est pas médecine familiale à Hamilton ce soir, là.
J'aurais aimé ça pour aider, mais.
Mais
le VPH pour venir à la vaccination.
Oui, parce que c'est super important. On vaccine les enfants de 25 ans et moins.
La raison.
14
ans. Tu sais, il y en a vraiment, c'est autant les enfants hommes et femmes.
Oui.
Qui.
On a mélangé nos enfants. J'ai des enfants de 25 ans et moins, puis on dit des enfants de 14 ans.
14 et moins, mais.
On se comprend.
Présentement, tous les enfants. Ont une première injection, un premier vaccin aux troisième année du primaire.
C'est ça, c'est d'emblée, ça, maintenant.
Et une deuxième dose en secondaire 2, secondaire 3.
Oui.
Et le but, pourquoi qu'on veut vacciner les jeunes enfants, c'est parce qu'on veut vacciner avant leur première relation sexuelle. Si la personne n'a jamais eu le VPH avant le vaccin, le taux de réussite est à plus de 90 % pendant plusieurs années. Le problème, c'est lorsqu'on a eu le VPH... une ou deux ou trois fois, et on s'est vacciné, c'est pas mauvais de se vacciner, mais il reste que vous allez être moins protégé que si vous avez jamais été en contact avec le VPH.
Donc, si vous payez le 600 $ du vaccin, qui est gratuit pour une durée limitée là, présentement,
c'est pas méchant, mais
à Québec.
Idéalement, c'est quelqu'un qui a jamais eu le VPH ou le condylome va avoir un meilleur succès que quelqu'un qui a déjà le VPH ou qui a déjà des condylomes. Le vaccin va aider, mais pas autant que si on n'avait jamais eu le VPH.
Exact. Et là, c'est important de savoir également que le VPH est un virus qui peut se réveiller lorsque votre système immunitaire est affaibli. Hein?
En principe, le VPH, si on est porteur ou on ne l'est pas, c'est l'herpès qui va faire ça.
Ah, je pensais que le VPH pouvait comme ressurgir, même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une crise de VPH. De condylome?
Généralement, c'est quand le condylome s'en va, on a réussi à passer au travers.
Ah, OK.
Et le système immunitaire a été capable de s'en débarrasser.
Parfait.
Il ne reviendra pas nécessairement.
Okay.
Il peut revenir, peut-être, mais c'est des gens qui bien souvent vont avoir des relations sexuelles constantes avec plus d'un partenaire. Donc, il va toujours avoir une souche qui va venir parce qu'il y a plusieurs souches. Hein. On sait que le Gardasil 9 va vacciner, va protéger contre 9 sources de condylomes. Donc, il y en a beaucoup plus que ça.
Mais c'est une centaine, je pense.
Il y en a plusieurs centaines.
Ouais,
et on se concentre sur les 9 les plus usuellement identifiés. Et le VPH, comme tu dis, on peut être porteur longtemps. On peut avoir des cellules précancéreuses longtemps. Mais comme tu dis, oui, il y a certains cas de figure, il peut partir et revenir. Mais généralement, lorsqu'on l'a, le système immunitaire, s'il ne réussit pas à s'en sortir par lui-même, il va finir par causer, d'un, les condylomes, ou deux, des cellules précancéreuses, parce que les condylomes, c'est inoffensif, c'est très contagieux, mais c'est inoffensif dans le sens que tant et si longtemps que les condylomes n'attaquent pas les cellules du col utérus, dès qu'il le fait, ça peut causer ce qu'on appelle un cancer du col.
Puis c'est un peu ce qui est risqué, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est chez mesdames, on passe des pap test, donc on peut se faire diagnostiquer, mais chez l'homme, à moins d'avoir... Parce qu'on peut être porteur du VPH sans symptômes et le transmettre à ce moment-là sans symptômes. Et chez l'homme, il n'y a pas vraiment de moyens, je pense, à moins d'avoir des éclosions de condylome.
Bien sûr, on peut être ce qu'on appelle asymptomatique,
oui.
Comme tu dis. C'est qu'on est porteur de la maladie sans nécessairement avoir de symptômes. Et lorsqu'on a des symptômes, bien, chez l'homme, bien souvent, ça va se voir comme des condylomes. Par contre, on peut être, le spermatozoïde peut être contaminé et ont même la peau, même si elle n'a pas nécessairement de symptômes de condylome, juste le frottement de peau à peau de quelqu'un qui a un VPH peut transmettre la maladie d'un individu.
Ou même par le toucher, hein, je pense.
Même au niveau de la langue, le toucher. Donc, ouais. Tous les exemples, les objets sexuels qu'on a utilisés, puis les objets sexuels, ben on les partage. Mais le VPH peut être partagé via les objets sexuels, ça... même s'il n'y a pas eu vraiment de contact entre deux personnes.
Ça reste-tu longtemps, les virus, sur les objets sexuels, tu sais, vu qu'il n'y a comme pas de...
Ouais.
D'ordre généralement...
d'écosystème pour les garder en vie, oui.
Le VPH, hors être humain, un peu même, comme je dirais, le VIH, c'est des virus qui doivent se faire quasiment en temps réel. Autrement dit, un VIH, mettons un exemple, hors être humain, vit vraiment, vraiment pas longtemps. Ouais. Il faut qu'il y ait vraiment un contact direct. Donc, si on partage un jouet, bien là, on parle de VPH dans ce cas-ci. Là. À ce moment-là, ben le jouet se fait en temps réel. C'est ça qu'on l'utilise en temps réel. On ne laisse pas reposer une heure, puis on le prend après. Là. Parce que généralement, le VPH n'aime pas vivre en dehors du corps humain très longtemps. Il faut qu'il soit... collé. Donc, s'il n'est pas attaché à une cellule humaine, s'il y a des conditions de température différentes, donc il va s'autodétruire, donc il ne sera plus activé. Donc, c'est un virus qui a besoin vraiment d'être collé à l'être humain.
On s'entend de toute façon, des jouets sexuels, ça se prête pas vraiment. Là. Si vous arrivez chez quelqu'un...
Et ça dépend.
Pis, ben non, mais si la personne a des jouets sexuels, mettons, un homme a un vibrateur, un Magic Wand là, qui est bien populaire, puis qui te propose de l'essayer, c'est parce qu'il l'a sûrement proposé à
c'est weird,
bien d'autres femmes avant. Tu peux mettre un condom dessus, par contre, là, mais c'est quand même
mais bien le nettoyer aussi. Bien le nettoyer au préalable. Oui. On désinfecte, on le lave au savon, de l'eau et du savon, puis ça peut être aussi efficace, mais il reste
même
que...
Même chose
souvent...
à fille qui a des bottes plus... C'est des bottes plug pour hommes là, ou des trucs comme ça, là, tu sais, nettoyer avant. Ça,
oui. Puis le fameux VPH, ah, mais comme je vous dis, oralement parlant, on peut l'attraper aussi. Donc, c'est sûr qu'on fait du sexe oral avec quelqu'un qui a des... qui est porteur de la maladie, ben, on peut avoir un VPH qui va s'installer au niveau de ben, notre gorge en tant que tel et créer des condylomes orales en tant que tel.
Même s'il n'y a pas de condylome, mettons, sur...
Ça pourrait arriver, effectivement.
Okay. Personne ouais. qui l'a
asymptomatique. Asymptomatique. Donc, c'est pour
ça contagieux,
que
pareil.
Tu restes contagieux quand okay. même. Puis c'est ça qui est le danger de cette maladie, ben, de ce virus-là, c'est qu'il n'est pas toujours apparent. Puis bien souvent, ça ne prend pas une grande lésion pour être fortement contagieux. Puis une femme qui est porteuse de la maladie, des fois, c'est plus embêtant parce qu'on le verra encore moins, parce qu'il va être au niveau du col de l'utérus. Ouais. Parce que bien souvent, les condylomes ne sont pas toujours sur les lèvres. Quand ça arrive, on le voit, mais généralement, il va être en dedans. Fait que bien souvent, on peut contaminer l'homme de cette manière-là aussi. Puis l'homme le transmet à nos femmes, etc. Donc, ça reste quand même ça se propage assez rapidement.
C'est depuis quand que ça existe, le VPH? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'il me semble qu'on n'entendait pas tant parler de ça. Même que, je ne sais pas, Louis, mais moi, plus jeune, on ne proposait pas ce vaccin-là.
Ça fait longtemps. Mais le vaccin ne fait pas si longtemps, mais le virus de papillon
dans
humain...
dans mon temps qu'il l'avait, là.
Oui, mais ça a été vraiment plus commencé à être documenté dans les années 80. Là où est-ce que les techniques de détection ont commencé à être utilisées. Parce qu'il faut penser une chose, là. Le VPH, je fais un parallèle au VIH, c'est pas le VPH, mais le VIH a été découvert en 1983 par un Français. Puis il existait depuis 1978, mais les gens ne savaient pas c'était quoi. Les gens mouraient de maladies, bien souvent associées à une pneumonie, puis ils disaient c'est un virus qui donne ça, mais on ne sait pas c'est quoi. Un moment donné, un Français qui a réussi à l'identifier par des méthodes de détection. Donc, entre le moment où est-ce qu'on l'identifie et qu'on puisse faire un dépistage à grande échelle, il se passe plusieurs années. Donc, le VPH est un peu comme ça. Donc, les femmes avaient des cancers du col de l'utérus dans les années 70, années 80, probablement dû en partie à cause du VPH, qui existe depuis plusieurs années. Et c'est documenté depuis pas si longtemps que ça. Bon, du coup, je vous ai peut-être depuis une trentaine d'années, mais c'est un virus quand même qui collait à l'être humain depuis plusieurs années.
OK, qui est très sournois. On a beaucoup de... Ça n'a aucun lien avec les ITSS, mais il y a plusieurs personnes qui parlent de la coqueluche.
Oui.
Et ils semblent être, eux ou leurs enfants, en tout cas, atteints. Mm-hmm. C'est vrai que, moi, je me souviens que l'an dernier, il y avait eu une espèce d'explosion de cas. Ça semble être le cas en ce moment aussi. Ça, est-ce que c'est relativement nouveau aussi, la coqueluche? Quand on était jeune, on n'avait pas ça tant que ça non plus. On entendait parler de temps en temps, mais il n'y avait pas des vaccins, justement, pour ça?
Bien, on est vacciné en principe, contre la coqueluche. Okay. Bon, dans je pense que le vaccin se donne en très bas âge, donc de 2 ou 3 ans, quelque chose de genre, là, en préscolaire. C'est un virus, c'est un vaccin qui donne, je pense, c'est diphtérie, coqueluche, tétanos, diphtérie, coqueluche. Là.
OK.
Et la coqueluche n'est pas un virus, hein, c'est une bactérie qui s'appelle Bordetella pertussis. Pertussis, en latin, veut dire le tout. Et c'est une bactérie qui va créer ce qu'on appelle des toux, des quintes de toux interminables.
Ah oui, c'est quelque chose, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. Quelque chose que la coqueluche, là?
Et bien souvent, pour les jeunes enfants, bien souvent, quand ils reprennent leur respire ou quand ils le touchent, ils l'appellent la coqueluche parce que ça a comme un peu, je dirais, une sonation, un son comme un son de coq, là, tu sais, dans la manière qu'il reprend son respire puis qu'il tousse. Et c'est assez, je dirais, il n'y a pas vraiment grand médicament là, pour traiter la coqueluche. Bon, oui, il y a les antibiotiques.
Faut attendre que ça passe.
Ça peut passer, ça peut durer, comme je dirais, entre 3 et 7 jours. Mais il reste que c'est très contagieux. C'est une bactérie qui reste très contagieuse, là, du moins quand on va tousser en tant que tel. Donc, les micro-gouttelettes vont projeter ces bactéries-là dans l'air. Et la bonne nouvelle, la coqueluche, c'est que c'est cyclique. Dans le sens que ça va arriver en moyenne aux 4 ou 5 ans, où est-ce que cette bactérie-là va revenir dans la population. Et bien souvent, elle revient dans la population pour les gens qui n'ont pas été ou mal vaccinés
là,
à la naissance.
Ça se peut-tu que ce soit pire, vu qu'on a peut-être eu un peu de laxisme sur les vaccins autres que celui du COVID pendant les 3-4 dernières années?
Il y a ça. Il y a aussi le phénomène de l'immigration, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... on sait qu'au Québec, depuis 2 ans... près d'un million de personnes, au moins 600 000 personnes depuis 2-3 dernières années qui sont arrivées d'un peu partout dans le monde.
Puis sans être raciste, c'est une réalité. Même les cas d'hépatite, il y a des TSS qui sont...
Bien, c'est des gens où est-ce que sont peu vaccinés, ou la vaccination, comme nous, on a obligatoire, ou très fortement suggérée. Donc les gens, quand ils viennent ici, je ne suis pas certain qu'au niveau de l'immigration, on leur demande « Es-tu à jour dans ton carnet vaccinal? »
Pas sûr.
Donc les gens
on
arrivent,
leur demande pas grand-chose tout court. Là.
Exact. Arrivent ici avec des maladies que dans leur pays, c'est endémique. Quand on dit endémique, c'est que tout le monde l'attrape, c'est normal. Mais les gens arrivent ici, puis des fois, durant qu'ils arrivent ici, ils sont porteurs de telle maladie, ils la développent et boum, ça crée des micro-éclosions. Et les gens qui n'ont pas été vaccinés, un peu comme la rougeole, je ne sais pas si vous entendez, là, cette semaine, il y a 11 cas de rougeole qui revient au Québec. La rougeole, c'est le virus, à ma connaissance, le plus contagieux de la planète. Une personne qui atteint la rougeole va en contaminer 12 autour de lui.
Là, on parle de quoi comme symptômes puis comme risque?
Bien, la rougeole, c'est une fièvre de rougeole. C'est une fièvre aussi qu'on va voir, notre peau va venir plaquer rouge en tant que telle, sans être comme la varicelle. On vient comme tout plaquer rouge. On a une fièvre qui va durer quelques jours et c'est excessivement contagieux. Bon, la raison... Pourquoi qu'aujourd'hui, c'est contrôlé? C'est les vaccins qui s'appellent RRO, rougeole, rubéole, oréon. C'est des vaccins qu'on a aussi en très bas âge.
Oui.
Qui fait en sorte qu'une personne qui a été vaccinée au moins une fois dans sa vie n'aura à 95% du temps pas la rougeole. Donc, les gens qui ont la rougeole présentement, c'est des gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc, des gens qui, exemple... De plus en plus, on voit ça, des gens qui refusent que leurs enfants se fassent vacciner.
Oui, mais là, il y a...
Pour diverses raisons, là.
Mais oui, qu'on connaît, là. C'est des risques, tu sais, c'est tout qu'on... Ouais. Que des gens mettaient de l'avant, mais il n'y a pas d'études qui ont confirmé de lien direct non plus, là, avec ces trucs-là. Hein.
Non.
Ça n'a jamais été confirmé, là. Fait que c'est vraiment que des craintes.
C'est des craintes, effectivement, parce que la rougeole est un vaccin super efficace. La bonne nouvelle avec la rougeole, c'est qu'il n'y a pas de mutation. C'est pas comme la COVID, là, qu'à tous les 3 mois, il y a un nouveau mutant, puis faut repartir une nouvelle génération de vaccins.
Un coup vacciné, là, t'es vacciné.
Et là, la rougeole, t'es vacciné une fois dans ta vie, puis t'es correct, là, toute ta vie. Donc, les gens qui attrapent la rougeole, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ça, on peut attraper la rougeole en bas âge ou une personne plus vieille, là, ça dérange pas. C'est juste que ça va s'attaquer à des gens qui n'a pas été vacciné, qui a côtoyé cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il y a des éclosions ici et là qui arrivent. Donc, faut mettre ces gens-là en isolation le temps qu'ils sont positifs.
La rougeole, la varicelle, la picote, c'est pas toute la même affaire.
C'est des virus complètement différents. Ben, la varicelle,
la même question.
La varicelle et la picote.
On est connectés.
La varicelle, la picote, le zona, c'est le même virus en tant que tel.
OK. Mais la rougeole, c'est différent.
La rougeole, c'est un virus à ADN et non pas ARN, comme exemple, le serait la COVID.
Donc, c'est ADN. ARN.
Oui, c'est de langage de qui fait que c'est la génétique du virus qui nous infecte. Mais c'est un virus ADN qui est beaucoup très stable. Okay. Il n'a pas évolué dans le temps depuis combien d'années que ça existe. Et c'est un virus qui est généralement depuis les... Je disais même en Amérique du Nord, on disait qu'en l'an 2000, c'est un virus qui était disparu de l'Amérique parce qu'on avait réussi à vacciner plus de 90 % de la population. Et là, il revient tranquillement parce qu'il y a du laxisme au niveau de la vaccination. Oui, on parle des gens qui ont eu l'immigration, qui n'ont pas été vaccinés, mais essentiellement, les gens qui ont la rougeole, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Okay.
Et lorsque ces gens-là se rencontrent, mais c'est comme ça qu'ils se propagent la maladie.
Puis pour revenir à la varicelle, la picote,
oui.
Il me semble qu'on en entend moins parler. Puis est-ce que c'est vrai qu'un adulte qui l'attrape, c'est vraiment très dangereux là, pour lui? C'est plutôt dangereux qu'un enfant.
Généralement, la varicelle, la picote, c'est une maladie infantile. Okay. Bien souvent, on va attraper au primaire, là, ou même préscolaire.
On l'a pas mal tout attrapé. Hein?
Généralement, on l'attrape.
Pas moins, non?
Non?
Non.
Moi, je me fais la calamine partout.
Ben oui, c'est des fois des petites cicatrices.
Oui.
Et il existe des vaccins contre la picote en tant que telle. Donc,
oui.
Un enfant qui n'a jamais eu la varicelle, on peut le faire vacciner à partir même de l'âge de 2 ou 3 ans.
Il faut le demander, ça. J'imagine que c'est optionnel.
C'est avec des frais. C'est pas sans frais. Donc, dans les SCLSC ou les cliniques de vaccination. On peut vacciner les enfants qui ne développeront pas la varicelle. La bonne nouvelle, quand tu ne développes pas la varicelle, ça veut dire que tu n'attraperas pas non plus le zona quand tu vas être plus vieux.
Oh, OK.
On sait que le zona, c'est la deuxième apparition de la varicelle quand on l'a eu dans notre vie. Donc, on peut attraper la varicelle quand on a 5, 6, 10 ans. Et le zona, à 60 ans, boum, je me déclare un zona. Donc, c'est le virus qui est en dedans de nous, qui est dans la famille des herpès viridés. Hein. On s'entend que c'est un virus qui va rester toujours en dedans de nous. Donc, on est porteur toute notre vie de la varicelle. Et pour une raison qui, scientifiquement, peut être, comme tu dis, une faiblesse du système immunitaire, une fatigue.
Ça peut être associé au stress. Parce que j'ai souvent vu des gens vivre des gros épisodes de stress, puis bang, le zona est sorti.
Boum, le zona. Et le zona, pourquoi qu'il fait si mal? Il va toujours s'attaquer à la fin des terminaisons nerveuses, soit au niveau du visage, au niveau du dos.
Hein, bien sûr. La ceinture de feu, hein?
La ceinture de feu. Et c'est ça qui fait très mal pendant plusieurs années. Par contre, plusieurs jours. Et la vaccination est bonne aussi contre le zona. Il y a un vaccin contre le zona. Donc, même si on a attrapé le zona, on peut aller se faire vacciner. La vaccination va faire en sorte que le zona ne reviendra pas, du moins de sitôt, parce qu'on peut attraper plus d'une fois le zona. Hein. Le zona, il y a des gens qui vont attraper deux, trois fois.
Mais
le zona, ça va être contagieux pour quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle.
Okay.
Donc, un exemple, quelqu'un qui a un zona, bien, s'il y a un jeune enfant autour, il ne faudrait pas qu'il irait jouer au travers de ses plaies parce que ses plaies restent contagieuses puisque sont porteurs en même temps de la varicelle.
Okay, mais quelqu'un qui est dressé en studio, là, qui a le zona, comme on sait, ne peut pas nous le transmettre
en
s'assoyant sur la même chaise.
Non. Il faut vraiment qu'il y ait un contact avec les pustules, etc.
Okay.
Admettons, là, moi, j'ai jamais pogné la varicelle étant jeune.
Ouais.
Fait que si
c'est
je...
ton souvenir.
Ouais.
Parce que ça se trouve que tu l'as peut-être eu, puis tu t'en souviens pas.
Peut-être, là, mettons que je suis pas mal convaincu, j'ai jamais pogné ça. Fait que ça veut dire que j'ai pas de chance de développer du zona, mais si j'entre en contact avec quelqu'un qui a du zona,
tu pourrais avoir une varicelle.
Là, je pourrais pogner une varicelle qui plus tard pourrait
devenir un zona.
Même
tomber au zona direct.
OK.
Ça pourrait arriver.
Mmh. On est sollicité hein, dans la quarantaine. On est sensibilisé en fait, au fait de se faire vacciner pour le zona, là, si possible, autour de 50 ans.
Généralement, comme je vous dis, là, ceux-là qui ont déjà eu la varicelle, on l'a eu, mais ça, on s'en souvient pas. Hein? On l'a eu, ma mère me l'a pas dit. Oui,
c'est peut-être ça aussi.
On sait que des années 50, 60, 70, 80, c'était très populaire, la varicelle, la picote. Donc oui, c'est bon de se faire vacciner à tous âges en tant que tel.
On demande à ma mère.
Plus vite qu'on l'est, plus vite qu'on va diminuer les risques d'attraper le zona en âge opportun.
OK. Donc, on peut se faire vacciner. Là, on n'est pas obligé d'attendre la cinquantaine pour se faire vacciner.
Non, non, non. Wow. Idéalement, c'est parce que les zoonoses, on va attraper ça beaucoup plus fin quarantaine, 50, 60, 70. Oui. C'est rare qu'on a... C'est pas impossible, mais c'est rare qu'on ait un zona dans la trentaine. C'est plus tard que ça arrive. Donc, de se faire vacciner dans la quarantaine, c'est une bonne mesure d'éviter que le zona arrive, parce que quand ça arrive, il est un peu trop tard.
Oui. Okay. Le temps défile, ça n'a juste pas de bon sens, il reste.
Oui, hein, ça va.
Mais il y a quelqu'un qui demandait, là, avec toute la technologie et tout ce qu'on voit autour, les microbiologistes qui travaillent sur plein de trucs, comment ça se fait qu'on n'a pas de remède contre l'herpès?
Écoute, l'herpès, deux choses. Et d'un, la science, une des raisons pourquoi qu'elle ne pousse pas à l'extrême les recherches contre l'herpès, c'est que c'est pas vraiment un virus qui est mortel. Donc, bien souvent, les recherches pharmaceutiques vont être beaucoup axées sur des virus qui sont mortels. Donc, on a mis beaucoup d'argent sur la COVID, on a mis beaucoup d'argent sur le VIH. Donc, mais le problème, c'est que scientifiquement parlant, le virus de l'herpès a une capacité de fausser notre système immunitaire. De sorte que lorsqu'on est en crise, parce que c'est un virus qui va vivre dans nos ganglions, soit au niveau de la moelle épinière, soit au niveau des aisselles, donc partout où il y a des ganglions. Le virus, quand il est en phase latente, il dort là. Et quand il dort, le système immunitaire l'oublie complètement, mais il est là. Et ce virus-là est inoffensif, non contagieux, il peut être là pendant 50 ans de votre vie puis se déclarer une fois dans votre vie, mais vous allez être porteur.
C'est là qu'il y a des couples qui se ramassent avec un épisode d'herpès alors que ce sont deux personnes fidèles. Mmh. Et ça crée, là, ça peut créer une explosion.
Yeah, ça fout le trouble, c'est sûr. Là.
Exactement.
Mais, c'est triste.
Puis ce fameux virus-là, en tant que tel, ben c'est très dur à avoir un remède qui va l'éliminer à la source. Donc, il va même le vacciner parce que c'est un virus qui se mute, bien, se mute en dedans de nous, de sorte qu'il se met en mode dormance, ce qui fait que le système immunitaire ne le reconnaît pas. Et après ça, il y a une espèce de transcriptase inverse qui fait que le virus devient actif dans notre système et qui va, autrement dit, contaminer son hôte. Donc, on va créer des lésions.
Souvent aussi, en période de stress.
De soleil, une carence. Je dirais quelqu'un qui prend trop de glycine en tant que tel, qui a une acidité non essentielle. Donc, il va l'exciter. Et qui fait que si on arriverait à avoir un vaccin contre l'herpès, ce serait toute une avancée technologique. Ce serait du jamais vu. Mais c'est un virus qui est encore très difficile à contrôler, du moins à éliminer, pour différentes raisons scientifiques et des raisons aussi que c'est...
Mais c'est sournois, il y a des gens qui sont porteurs sans le savoir.
Exactement.
Aussi.
Porteurs sans savoir. Puis c'est les TSS la plus répandue dans le monde, dans le sens qu'une personne sur cinq est porteur asymptomatique.
Puis dans les prises de sang, les médecins ne font pas les tests et même parfois... Tu peux demander la prise de sang pour ça. Et j'ai vu des cas, des gens qui me racontaient, ils avaient un résultat positif, sans avoir jamais eu de symptômes, et la fois d'après, un résultat négatif. Oui. Donc, c'est que leur corps, je pense qu'on en a parlé ensemble d'ailleurs, leur corps a été en contact avec le virus, mais a réussi à le combattre.
Oui,
donc...
mais il est porteur encore. Oh. Il reste qu'il y a deux types de tests que vous allez faire quand vous allez faire une prise de sang pour l'herpès. Si vous voulez voir si vous êtes porteur de la maladie, vous allez faire herpès IgG. IgG, c'est des hémoglobines de type G qui correspondent à la mémoire du virus qui fait que vous êtes porteur de la maladie. Ça veut dire que je l'ai déjà eu moins une fois dans ma vie.
OK.
Le IgM, donc les hémoglobines de type M, c'est si vous avez le virus en phase aiguë, donc que vous avez des symptômes. Donc, quelqu'un qui soupçonne un feu sauvage, soupçonne, par exemple, un herpès de type 2 génital, il va faire une prise de sang, puis il va dire, moi, je veux voir si c'est présentement la crise que j'ai est herpétique. Donc, il va dire herpès IgM. Donc, s'il sort positif à l'IgM, ça veut dire que ce que vous avez comme symptôme est relié à un herpès qui est actif, qui vous cause des problématiques présentement. Donc, c'est pour ça que si le IgM est négatif et que le IgG est positif, ça veut dire que vous n'êtes pas en crise. Cependant,
vous êtes
porteur de maladie qui, elle, peut se déclarer n'importe quand.
Ou jamais.
Ou jamais, exactement. Okay.
Et les gens qui prennent la prophylaxie, on parlait à un moment donné, je pense, de Valtrex.
Oui, du Valtrex, de Cidovir.
OK, comme Femvir, la trithérapie pour le VIH, tout ça.
Oui.
Est-ce que les gens qui prennent ces traitements-là, la PrEP également,
oui.
Les gens qui prennent ces traitements-là, est-ce que ça empêche de transmettre le virus ou...
On va parler beaucoup plus du PrEP tant qu'à ça, parce que le PrEP, c'est quand même un médicament qui est assez récent. La PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. Autrement dit, c'est un traitement qu'on donne aux gens qui ont vraiment une vie sexuelle très active à danger, des gens qui peuvent attraper le VIH. Donc, la PrEP, c'est un médicament qu'on va donner...
Que pour le VIH.
Okay. Ça ne sert pas à d'autres types de pathologies. Donc, quelqu'un qui, exemple, est une personne homosexuelle, qui a une vie active...
Très ses orgies.
Très, très, qui n'a aucune protection. Ouais.